Un vent de renouveau souffle sur les utilitaires en France. Grâce à son design aérodynamique conçu en soufflerie, nouveau Renault Master E-Tech 100% électrique, assemblé en France, atteint jusqu'à 460 km d'autonomie. Sans oublier une capacité de charge jusqu'à 1625 kg et 2,5 tonnes de remorquage. Existe aussi en motorisation diesel, bien sûr. Découvrez le nouveau Renault Master E-Tech 100% électrique, élu utilitaire de l'année 2025.
Données WLTP, selon version, voire professionnel.renault.fr.
RMC Motors avec Motorsport TV, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, je vous le dis chaque semaine, mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette émission Motors de 13h à 14h, parler des sports mécaniques et parler notamment de Formule 1 aujourd'hui, puisqu'évidemment, le Grand Prix d'Espagne qui va se dérouler sur le tracé de Barcelone, le tracé de Montmeló, dans la banlieue nord de Barcelone est imminent, c'est dans 2h maintenant, je vous le disais. On va en parler tout de suite avec Louis Amar et avec Adrien Tambay dans le cadre du Tour de Chauffe.
RMC Motors, le Tour de Chauffe.
Et voilà, Tour de Chauffe, on en a peut-être besoin d'ailleurs. Bonjour Louis Amar.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Parce que je crois qu'il ne fait pas très chaud du côté de Montmeló, sur les hauteurs de Montmeló, et le vent est peut-être toujours assez présent.
Il fait même froid Jean-Luc, ici à côté de Barcelone, carrément, on a tous ressorti les pulls et parfois même les caouets parce qu'il a énormément plu depuis hier soir. Un orage terrible s'est abattu sur Barcelone pendant à peu près toute la nuit, il a plu encore ce matin, il fait une toute petite vingtaine de degrés avec pas mal de vent, mais le soleil est en train de ressortir, il devrait faire beau, mais pas vraiment chaud tout à l'heure lors de la course.
Alors c'est un élément très important, bonjour Adrien Tambay.
Salut Jean-Luc, salut à tous, salut Louis.
À prendre en considération effectivement, puisqu'Adrien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va rappeler la grille de départ bien sûr avec la pole de Lewis Hamilton devant son équipier Bottas et les deux Ferrari. Cet élément de température et d'exploitation des pneumatiques, je pense qu'il va être crucial dans le cadre de ce Grand Prix.
Oui Jean-Luc, comme tu le dis, crucial puisqu'effectivement c'est les Mercedes qui ont réussi hier à tirer le meilleur parti de ces températures un peu plus basses que lors des trois derniers Grands Prix. Elles étaient un peu du même ordre lors du premier Grand Prix en Australie et on a vu Lewis Hamilton en pole position à ce moment-là. Donc là, voilà, il réédite la performance et il se retrouve enfin avec son coéquipier en première ligne. Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi les pneus qui ont été un peu différents. Enfin, tous les pneus,
toute la gamme.
Toute la gamme.
Pirelli est un peu plus tendre, globalement.
Voilà. À Barcelone, plus tendre et aussi un peu moins épaisse.
C'est ça.
Pour éviter un problème de bullage lors de la course et lors des années précédentes. Et ce paramètre a peut-être aussi rebattu un peu les cartes.
Alors Louis, je parlais de la grille de départ qui est assez simple, en tout cas pour les trois premières lignes. Les deux Mercedes d'Hamilton et Bottas, par parenthèse, 74e, il faut quand même insister sur ce chiffre, c'est époustouflant. 74e pole de Lewis Hamilton. On rappelle qu'Ayrton Senna en était à 65, ce qui était déjà considéré comme absolument fabuleux à l'époque. Valtteri Bottas est juste à ses côtés. Derrière, les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen. Et ensuite, les deux Red Bull Renault. Est-ce à dire, Louis, que effectivement, on ne pourra rien faire du côté des autres équipes déjà pour s'attaquer à ces trois-là?
Eh bien, compliqué pour les autres équipes, mais ça, on le répète depuis le début de saison. Ouais. C'est vrai qu'il faut des circonstances de course assez exceptionnelles, de la pluie, des safety cars, des abandons, des accrochages pour que d'autres puissent venir se mêler à la lutte. Mais j'ai même envie de te dire, Jean-Luc, que ça sera compliqué pour les autres équipes d'aller attaquer les Mercedes parce que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, en étant premier et deuxième, sont quand même dans une position assez confortable pour contrôler la course et se protéger mutuellement.
Alors, on va rappeler, et heureusement, c'est qu'il n'y a que 40 millièmes d'écart entre Lewis Hamilton, 1.16.173, par parenthèse, record du circuit pulvérisé, y compris le record qui avait été établi cet hiver dans les essais hivernaux, mais là, il faisait encore plus froid, c'est le cas de le dire, dans la deuxième séance, d'ailleurs, deuxième série de 4 jours, pour être précis. Bottas derrière, et puis Vettel à moins de 2 dixièmes. On va écouter Lewis Hamilton à propos de cette pole qui ne peut que le réjouir. Ça n'est que la deuxième de la saison pour ce 5e Grand Prix. C'est au micro de Louis Amar.
C'est la première partie du travail, mais ça reste une toute petite partie de ce que je dois faire ce week-end. Il me reste des efforts à fournir, mais je suis vraiment heureux de cette pole. Quand j'ai terminé mon tour, certains étaient encore en piste, alors j'attendais qu'on me donne le résultat dans ma radio et j'espérais, puis on m'a dit que c'était bon. Pour la course, il faudra qu'on travaille en équipe. On part premier et deuxième, il faut conserver cet avantage après le premier virage. J'espère qu'on y arrivera.
Alors, est-ce que c'est un appel du pied clair ou voilé, Adrien, à Bottas, son équipier, en disant est-ce qu'on va jouer le vol de groupe avec évidemment la première ligne toute de métal argenté pour bloquer quelque part les Ferrari, ou pas?
Alors je crois que la réponse, on va l'avoir assez vite dans la course, en tout cas quant au rythme de la Mercedes sur ses pneumatiques soft avec lesquels ils vont s'élancer, puisque hier en qualification, on se souviendra en Q2, Lewis Hamilton était bien derrière les Ferrari. C'était avec ces pneus-là que d'ailleurs Sébastien Vettel a réussi à faire sa troisième place et en Q3 est plus rapide qu'avec les pneumatiques super soft, donc c'est quelque chose d'assez rare, des pneumatiques plus dures, plus rapides, donc ça veut dire que la Ferrari arrive à faire marcher ces pneumatiques-là presque aussi vite, enfin même plus vite que les pneumatiques qui sont plus tendres, et ça veut dire qu'elle va être capable aussi de les faire durer plus longtemps sur la course. En outre, Lewis Hamilton avait des soucis en Q2 et on l'a vu en difficulté en motricité à la sortie de l'épingle avec ses pneumatiques soft. Donc voilà, ça va être dans les premiers tours qu'on va comprendre si Lewis Hamilton est capable de s'échapper. Et puis forcément, quand on a deux voitures positionnées devant, on utilisera toutes les armes du côté de chez Mercedes. Si on doit ralentir un peu les autres pour que Lewis Hamilton s'échappe, on le fera.
Alors c'est vrai que Louis, on est avec des spécialistes dans Motors, mais on va pas surtout pas exclure tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer de comprendre. Ce facteur pneumatique, il est tellement primordial en Formule 1, peut-être là, à Barcelone, pour ce 5e Grand Prix, plus que jamais. Et puis je rappellerai, Louis, avant que tu me répondes, bien sûr que l'an dernier, et tu t'en souviens comme moi, c'était à la faveur d'un changement de pneumatique que Lewis Hamilton avait réussi à reprendre la tête, puisque Vettel l'avait devancé.
Exactement. Alors, pour le dire clairement, il se passe quelque chose ce week-end d'assez bizarre avec les pneumatiques à Barcelone. Ouais. D'ailleurs, une majorité des pilotes s'en émeut. En fait, pour le dire le plus clairement du monde, le pneu qui est censé être le plus performant ne l'est pas. Voilà. Le super soft le super soft ne semble pas plus performant que le soft, le jaune. Et la course livrera des indications importantes à ce niveau-là, évidemment. On surveillera donc de très près les stratégies. Un arrêt, deux arrêts. Et peut-être aussi, messieurs, l'utilisation des pneus médiums, les plus durs apportés par Pirelli ce week-end, donc ceux qui sont censés tenir le plus longtemps dans l'hypothèse d'un seul passage au stand.
Eh oui, il y en aura un ou deux, c'est ce qu'on sait des différentes équipes, on verra ce que la course nous réserve. On va écouter tout de suite Valtteri Bottas, le pilote finlandais de l'équipe Mercedes, qui lui aussi a besoin d'un très très bon résultat. On sait qu'il en a été privé en Azerbaïdjan par une crevaison, justement, il avait roulé sur un débris. Alors, il est confiant dans l'équipe et on parle des pneus, encore une fois, avec Bottas au micro de Luamar.
C'est une très bonne journée pour l'équipe. Je crois que les changements qu'on a apportés vendredi soir ont bien fonctionné. Ils nous ont permis de tirer le maximum du pneu super soft. C'est une bonne chose puisque les autres équipes semblent encore en difficulté de ce point de vue-là. Résultat, on part premier et deuxième. Il faudra rester en tête après le départ pour pouvoir ensuite contrôler la course et décider de notre stratégie. Mais les autres nous mettront sous pression. Et puis j'ai aussi pour mission de gagner cette course, donc on verra.
Alors j'aime bien cette remarque de Bottas, Adrien, c'est-à-dire il y va carrément, hein, il est sans complexe par rapport à Hamilton. J'ai pour mission de gagner cette course.
Mais si on s'en souvient bien à Bakou, c'était Valtteri Bottas qui aurait dû l'emporter. Avec Desi, bien sûr, on refait le monde, mais effectivement, il avait roulé sur un débris et éclaté son pneumatique, donc il est performant, il est pas loin du tout de son coéquipier, 400e, 40 millième, c'est rien du tout.
Ah, c'est vraiment
et ça s'est joué vraiment à rien. Il avait réussi à trouver de la performance dans le premier secteur où Lewis Hamilton avait réussi dans le premier run à être plus rapide que lui, sûrement des analyses entre les deux runs avec les ingénieurs et il avait corrigé tout ça, donc il est sûrement très en forme Valtteri Bottas, et il va tout faire, on est encore au début du championnat, pour essayer de reprendre des points à son coéquipier, hein. Sur le papier il y a un pilote numéro 1 parce que Lewis Hamilton c'est Lewis Hamilton,
bien sûr,
mais dans la pratique il n'est pas encore totalement numéro 1 cette saison.
Et oui, puis on va rappeler qu'il ne s'est pas imposé cette saison. Il avait remporté le dernier Grand Prix de la saison 2017, c'était à Abu Dhabi. Pour le moment, Hamilton, je vous le rappelle, leader avec 70 points suite à sa victoire chanceuse, il faut bien le dire pour lui, en Azerbaïdjan. Vettel, les deux belles victoires du début, alors une chanceuse aussi en Australie, 66 points. Et puis derrière, les deuxièmes couteaux, on va y venir, Kimi Raikkonen, 48 points. Raikkonen qui ne s'est pas imposé depuis très longtemps en Formule 1. Et Valtteri Bottas, donc 40 points. On va venir à l'équipe Ferrari et puis tu vas me donner ton sentiment justement sur cette équipe rouge qui est au niveau, je pense moi, maintenant des performances des hommes en gris de Mercedes. On va écouter Vettel justement qui n'avait pas décroché de pole position à Barcelone et qui là voulait refaire son retard par une pole éventuellement. Ça déjà c'est raté.
C'est une très 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 mauvaise statistique, mais je crois que c'était quand même pas mal. On était assez proche des Mercedes sur la fin, on a eu un peu de mal à trouver les bons pneus et le bon équilibre, mais j'ai l'impression que ça a été le cas pour quelques autres équipes. Ça risque d'être pareil pour la course, avec des températures assez basses, mais je pense quand même que ça sera serré. Mercedes, Red Bull et nous avons quasiment le même rythme, donc ça sera intéressant.
Alors, est-ce que là aussi, dans les attitudes et les langages, on est parvenu enfin, je dirais, Louis, du côté de chez Ferrari, au niveau de Mercedes? On se rappelle de cet avantage, hein, qui était incontestable, notamment la deuxième partie de la saison 2017. Est-ce que chez Ferrari, là, j'ai parlé de victoire chanceuse, c'était vrai, suite au safety car en Australie, mais est-ce qu'on est parvenu maintenant chez Ferrari au niveau de Mercedes?
Alors, victoire chanceuse pour Sébastien Vettel en Australie, c'est vrai. Victoire très chanceuse pour Lewis Hamilton à Bakou il y a 15 jours. Donc finalement, ça finit par s'équilibrer. C'est vrai. Il y a dans l'attitude, dans la façon de parler, dans la façon de se présenter au début des week-ends, un véritable changement chez Ferrari qui réside dans une posture beaucoup plus confiante. En fait, c'est vrai que les saisons précédentes, Lewis Hamilton ou les Mercedes de manière générale arrivaient toujours avec l'assurance du favori, dirons-nous. Et cette fois-ci, eh bien, Ferrari ne commence pas ses conférences de presse. Ça vaut à la fois pour Kimi Raikkonen, pour Sébastien Vettel, pour Maurizio Arriva Bene, ne commence pas ses conférences de presse en disant ça va être très dur, les Mercedes sont plus rapides, les Mercedes seront devant. Maintenant, on affirme vouloir faire jeu égal, et de fait, Ferrari fait jeu égal, voire mieux que jeu égal, puisqu'on rappelle que Lewis Hamilton a eu toutes les peines du monde à décrocher une deuxième pole position, même s'il l'a fait hier, et que les trois précédentes avaient été trustées par Sébastien Vettel. On peut rajouter enfin que Vettel et Raikkonen sont très rapides en qualif, et que Vettel n'a pas eu de chance également lors des deux dernières course en Azerbaïdjan et en Chine où il a terminé 4e et 8e.
Oui, c'est vrai. Alors effectivement, bon, le dernier Grand Prix là, il a tenté une attaque, on peut pas lui reprocher, encore une fois, il a perdu beaucoup sur cette attaque. Je vais rappeler les vainqueurs à Barcelone, c'est toujours important de se remettre dans le contexte. Lewis Hamilton s'était imposé en 2014 et en 2017, on vous a rappelé, donc pour le dernier Grand Prix. Vettel, nous en parlions, s'était imposé lui en 2011, Raikkonen en 2005 et 2008, et oui, avec Raikkonen, faut toujours remonter assez loin dans les stats. Verstappen, bah, tout le monde s'en souvient, c'était en 2016, c'était même la première victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Et puis on n'oubliera quand même pas Alonso, dernière victoire pour lui c'était en 2013 et il s'était imposé en 2006 lorsqu'il était en train de conquérir son deuxième titre de champion du monde. Alors Adrien, j'y vais comme toujours, franco et direct, est-ce que tu penses que Ferrari est maintenant globalement au niveau de Mercedes?
Oui, je pense que à part la première course en Australie, pour moi c'est la Ferrari qui était la plus performante depuis les trois derniers Grands Prix, c'était la Ferrari la plus performante et contre cette performance là, c'est quand même Lewis Hamilton qui se retrouve en tête du championnat aujourd'hui avec les circonstances de course, les mésaventures de Vettel dans les deux derniers Grands Prix, même s'il a eu de la réussite lors du premier Grand Prix. Oui. Mais je pense que là il y a peut-être un léger tournant à Barcelone avec un circuit complet plus abrasif que les autres sur lesquels on a couru jusqu'à présent, où tout le monde est très très habitué à rouler pendant l'hiver, notamment tous les pilotes sont réglés, donc c'est encore des écarts très très faible en qualification, et je pense qu'à partir de maintenant ça sera un coup à toi, un coup à moi entre la Mercedes et la Ferrari. On est sur deux niveaux de performance très 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 similaires, à la différence de l'année dernière, même en qualification. C'est en qualification de l'année dernière que la Mercedes arrivait vraiment à faire l'effort, oui. Et puis la Ferrari revenait en course
voilà. Toujours, surtout quand il faisait chaud, hein, on l'avait dit à
exactement
plusieurs reprises.
On a toujours la même tendance au niveau de la température, ouais. Je pense, mais tout ça c'est amoindri en qualification et en course, donc ça va être, je pense, un championnat très très passionnant.
Et ben voilà, c'est pour ça, on va pas vous le survendre, mais on vous explique pourquoi il y a beaucoup d'incertitudes, et en tout cas il y a un niveau de performance qui est équivalent. On va en venir maintenant à la troisième équipe de pointe, évidemment il s'agit de l'équipe Red Bull Renault, et j'insiste toujours sur la motorisation française. On va tout de suite écouter au micro de Louis Hamar Verstappen après cet accrochage là, aussi on va pas y revenir toute l'année, mais quand même, comme c'était lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan, parler effectivement de ces problèmes de pneumatiques qui reviennent sans arrêt sur le tapis. Verstappen au micro de Louis Hamar.
Oui, c'est bizarre, et honnêtement, je ne peux toujours pas vous dire quel pneu est le plus rapide. C'est vraiment étrange. Normalement, le pneu le plus tendre est le plus performant, mais ça n'est pas le cas ici. C'est pour ça qu'il y a eu des choix différents en qualif, en fonction des équipes et des pilotes. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la course. Ce dont je suis sûr, c'est que notre voiture est performante, et c'est toujours une bonne chose.
Oui, Louis, tu l'as dit sur cette antenne depuis hier, hein, les deux hommes qui sont arrivés presque la main dans la main, ils revenaient d'ailleurs de vacances ensemble, donc l'accrochage, c'était parfait, l'accrochage, on communique très bien chez Red Bull, évidemment, c'est leur métier, donc est-ce que tu penses, déjà, là aussi j'y vais carrément, que c'est vraiment oublié, en tout cas je pense qu'ils vont éviter de s'accrocher au premier virage, hein, ça on est tous d'accord là-dessus.
Si j'osais, je te dirais que Red Bull donne du zèle, parce que depuis que depuis le début de ce week-end, Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont effectivement joué parfaitement la partition de la réconciliation. Les deux hommes se sont d'ailleurs rendus à l'usine Red Bull en Angleterre la semaine dernière pour aller présenter leurs excuses officiellement.
Battre leur
coulpe. Une demande de Christian Horner, exactement, battre leur coulpe pour dire qu'ils n'avaient évidemment pas voulu ce crash et qu'ils s'excusaient platement devant toutes les équipes qui donnent tant pour leur fournir une bonne voiture à chaque fois. Donc forcément, il y aura, d'ailleurs c'est Max Verstappen qui l'a dit, un petit peu plus de prudence, un petit peu plus de marge. Pour autant, hors de question chez Red Bull de donner des consignes de course et de donner priorité à l'un ou l'autre de ses pilotes. Alors ça, c'est ce qui est dit officiellement. On va voir très vite, dès le début de la course sans doute, peut-être même dès le premier virage, s'il n'y a effectivement pas de consigne de course et pas de priorité donnée à Daniel Ricciardo ou à Max Verstappen. Simplement un mot encore sur Max Verstappen qui avait signé ici le premier grand coup d'éclat de sa carrière de pilote de Formule 1. C'était il y a deux ans, une victoire magnifique pour son premier Grand Prix chez Red Bull après être monté de chez Toro Rosso. Simplement, son début de saison est vraiment très compliqué. En quatre courses, il a déjà dû abandonner deux fois par sa faute sur des crashs. C'était à Bahreïn et donc il y a 15 jours en Azerbaïdjan. Si la saison passée, il avait été beaucoup frappé de malchance, cette fois-ci, ses mauvais résultats semblent être davantage de son propre fait.
Absolument. Et pour ajouter une petite louche à cette rivalité saine, on va dire entre les deux pilotes, tu vas me dire ton avis de pilote, toi aussi, Adrien, dans un instant, il y a, tenez-vous bien, 2 millièmes d'écart en qualification entre Max Verstappen, une 16-816, Daniel Ricciardo, une 16-818. Et pour compléter exactement ce que disait Louis, je dirais que Ricciardo, grâce à sa victoire, naturellement en Chine, opportuniste, mais comme il sait l'être, 37 points au championnat, alors que Verstappen stagne, on peut dire, à 18 points, presque 20 points de retard. Alors, la question, Adrien, la question du jour, est-ce que tu penses que c'est oublié entre les deux hommes? On va pas garder de rancœur, mais enfin, on poursuit la même chose. Hein. Je rappelle que Ricciardo n'a pas re-signé de contrat pour l'avenir avec Red Bull.
Je pense honnêtement qu'il n'y a aucune animosité entre les deux pilotes. Parce que, à la différence de plein d'autres paires en Formule 1, cette paire-là, il y a un Ricciardo dedans.
Ouais, et puis Ricciardo est un mec.
Et Ricciardo, c'est le mec le plus cool. Le mec le plus cool que je connaisse. C'est-à-dire qu'il va pas lui donner prise à Max Verstappen. Même si Max Verstappen ne lâche rien et est très agressif, il est aussi intelligent. Et je pense honnêtement qu'il n'y a pas d'animosité. Ils habitent tous les deux à Monaco. Ouais. Ils passent leurs vacances ensemble régulièrement. Et honnêtement, ils avaient le droit de faire la course sur la piste. Ils avaient le droit
de se
batailler.
Ils sont allés trop loin.
Ouais. Les deux sont intelligents. Ils vont revenir en arrière. Et honnêtement, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'animosité.
Il n'y a pas de rancœur. Il n'y aura pas de passif, on va dire, entre les deux hommes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je dois dire, personnellement, je suis absolument de ton avis aussi. Parce que Ricciardo, surtout grâce à Ricciardo, qui est un type formidable et qui mérite. Moi, pareil, on le dit depuis son talent. Déjà de pilote, il est un poil moins rapide en qualif, mais qu'est-ce qu'il est bon en course, on va peut-être le voir là. Allez, ça c'était la troisième ligne. La quatrième, elle est composée de Kevin Magnussen. Alors voilà un homme assez rugueux, et le mot est faible, hein, Louis, parce que je crois que l'ensemble du paddock s'accorde à dire que, et notamment Pierre Gasly, qu'il est même des fois carrément fou, comme l'an dernier, comme le dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. Et puis j'en arrive à Fernando Alonso, parce que quand même, on va pas zapper. Fernando Alonso, huitième temps, avec sa McLaren à moteur Renault, et puis c'est plus que le héros local, Louis. Tu as pu le mesurer, ça.
Ah, sa popularité n'a pas faibli d'un centimètre à Fernando Alonso. Vraiment, il a été encore une fois au centre de toutes les questions et de tous les encouragements des nombreux fans ici à Barcelone, et ce depuis le tout premier jour. Il a été aidé, Fernando Alonso, par une McLaren New Look, nouvel aileron avant, apporté ce week-end en Espagne, et ça semble fonctionner. Fernando Alonso, c'est important, c'est lui qualifié, c'est le seul dans le top 10 avec des pneus super soft. C'est avec ces pneus-là qu'il partira tout à l'heure. Ça peut lui permettre de prendre un départ fulgurant et de nous animer cette course. On rappelle que c'est ici, mais c'était il y a 5 ans, qu'il avait remporté la dernière victoire de sa carrière en Formule 1.
Eh bien, on l'espère, et puis on en parlera. Tiens, en fin de Motors, tout à l'heure, dans Radio Paddock, avec Aurélien Tirsin, puisqu'on parlera de sa victoire de Fernando Alonso. Et oui, il est remonté sur la plus haute marche d'un podium, c'était à Spa-Francorchamps, pour la première manche du WEC. Mais tout de suite, je vous propose de l'écouter au micro de Louis Amar et parler justement de ses dernières qualifications et des progrès de la McLaren.
Je crois que c'est bien. Sur les trois dernières qualifs, j'avais fini 13e, là je suis 8e, c'est un beau progrès, même s'il reste encore du travail pour se rapprocher des meilleurs. Mais au moins, nous allons dans la bonne direction. Dès qu'on apporte quelque chose de nouveau, nos résultats en piste s'améliorent. C'est bien aussi que ça arrive ici. Le Grand Prix d'Espagne est toujours spécial pour moi. Il y aura de l'émotion avant la course, comme à chaque fois, et j'espère pouvoir transformer cette émotion en performance. Peut-être aussi qu'il pleuvra, ce qui rendra la course intéressante et un peu chaotique. Il faudra qu'on tire avantage de ce chaos, donc j'espère la pluie.
Alors tu nous confirmes, Louis,
j'espère la pluie.
C'est très bon ça.
Il l'a fait.
Mais oui, mais la danse de la pluie, elle a pas fonctionné, hein, puisque tu nous as dit que la météo s'est un petit peu améliorée quand même, Louis, là, a priori.
Écoutez, les gars, je fais ce que je peux. Hein.
Oui.
Je peux pas réussir à faire pleuvoir comme ça. Je peux me mettre à chanter, je peux danser. Mais c'est toujours.
Envoie-nous une vidéo.
Pour l'instant. Un petit peu de bleu dans le ciel quand même,
ouais.
mais pas vraiment de pluie à l'horizon. Alors on ne sait jamais parce que c'est tombé par averse encore une fois assez brutal depuis le début du week-end, donc il n'est pas impossible qu'il y ait une douche comme on dit en anglais à un moment
du grand. Ça nous pimenterait bien le truc, ça. Hein.
Et oui, ça changerait un petit peu tout évidemment, mais pour l'instant, même s'il y a encore quelques nuages, ça sent pas vraiment la pluie.
On va parler des Français dans un instant et avec toi Adrien, mais je voudrais quand même insister sur la performance de Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz, dont l'idole est Fernando Alonso, ils sont battus plusieurs fois en course, et là on les retrouve tous les deux avec 69 millièmes d'écart entre les deux hommes.
Ils sont deux à se transcender sur ce circuit de Barcelone, à être à la maison. Carlos habite pas très loin du circuit et effectivement les deux ont fait un boulot formidable avec un Nico Hülkenberg qui lui avec la deuxième Renault a eu des soucis de pompe à essence, je crois,
oui, d'alimentation
d'essence, ouais. En tout cas et c'est sûr que pour les deux c'est très important, et pour le public espagnol qu'on connaît très fervent, c'est toujours génial d'avoir les deux dans le top 10.
Le public chaud bouillant, effectivement, du côté des collines qui bordent le tracé de Montmélo, un tracé long de 4,655 km qu'il faudra parcourir à 66 reprises. Vous êtes bien dans Motors, et nous aussi, on peut vous le dire, on reste avec Louis, avec Adrien, bien sûr, on va parler du French Corner, des pilotes français de ce Grand Prix d'Espagne disputé à Barcelone. Vous êtes dans Motors et vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Allez, on est dans la deuxième ligne droite de Motors, ça tombe bien, il y en a deux sur le circuit de Barcelone, le circuit de Montmélo, avec deux zones de DRS justement, et on aborde maintenant la partie qui nous est chère, vous le savez bien, c'est le French Corner.
RMC Motors, le French's Corner.
Eh oui, cheese, c'est vrai. French's Corner, puisque c'est le coin des Français. La partie des Français. Toujours avec Adrien Tambay, bien sûr, avec Louis Amar. Alors, Louis, ces Français, on peut dire qu'ils font un tir groupé, emmené en l'occurrence par Romain Grosjean, puisqu'on a Romain au 10e rang avec Saas Ferrari, puis un tout petit peu derrière, Pierre Gasly, 12e avec la Toro Rosso, Esteban Ocon, 13e avec la Force India, et Charles Leclerc, le francophone, je vais vous la faire à chaque fois, 14e avec la Sauber. Donc, on peut dire que c'est un tir groupé, Louis, pardon.
Ah oui, ça c'est un sacré tir groupé. Si on voulait même ajouter un autre francophone, on dirait que Stoffel Vandoorne est 11e,
oui,
et donc on en a 5 consécutifs. Pour Romain Grosjean, qui est donc le premier de ces Français, c'est une belle récompense et c'est une façon aussi de se redonner confiance, parce que même s'il ne le dit pas vraiment, même s'il préfère en rigoler, franchement je pense que son accrochage à son accident à Bakou il y a 15 jours a laissé des traces, parce que l'image est terrible quand même pour Romain Grosjean, de perdre le contrôle de sa voiture sous safety car en pleine ligne droite, de finir dans le mur alors qu'il y avait des gros points à aller chercher. Il est toujours scotché à la dernière place du classement des pilotes, il n'a pas inscrit le moindre point, Kevin Magnussen, son équipier, en est à 11, donc la situation commence à se tendre. Il y a eu une phrase assez lourde de sens, me semble-t-il, de Gunther Steiner, le patron de Haas, qui a expliqué à Bakou il y a 15 jours, je cite, « Romain a besoin d'une excellente voiture pour être performant, il ne sait pas s'adapter », tandis que selon lui, Kevin Magnussen a davantage d'aptitude à comprendre sa monoplace au fil de l'eau et à améliorer ses performances comme ça. Donc pour Romain Grosjean, c'est important de se reprendre, d'aller marquer des points et surtout de ne pas commettre de fautes pour ne pas avoir encore à pâlir de la comparaison avec son équipier.
Effectivement, c'est très important, tu as raison de le souligner, il y a un enjeu maximal. Il y était déjà lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. On va écouter Romain Grosjean à ton micro, Louis, évoquer justement cette qualification et le fait qu'il s'est quand même dans la Q3, dans le top 10, même si malheureusement il n'a pas obtenu le résultat qu'il laisse compter, surtout par rapport à son équipier Kevin Magnussen.
C'était une qualif intéressante avec un choix assez osé en Q2 de passer avec les softs pour demain partir en soft. Donc là on est sur une bonne position. Après c'est vrai que faire dernier de la Q3, bon bah c'est pas idéal. La température qui est tombée, le grip du super soft est pas bon. Enfin, on va plus vite en soft qu'en super soft, ça, c'est un peu la preuve. Dans mon tour de sortie j'étais un peu gêné par Kevin, du coup j'ai dû ralentir, les températures sont tombées et du coup j'avais pas forcément le grip qu'on espérait.
Alors parlons-en, tiens, un peu gêné par Kevin, Magnussen, bien sûr, on l'a compris. Adrien, tu parlais de la cohabitation qui, malgré l'accrochage, malgré l'accident d'Azerbaïdjan, se passe bien. Est-ce qu'entre Magnussen, l'impénétrable, hein, le Danois, très rugueux en course, et Romain Grosjean, justement, là, je pense pas qu'ils partent en vacances ensemble. Hein,
pour je crois honnêtement que Romain respecte Kevin Magnussen. On en a parlé l'année dernière à Monza, et je pense qu'aussi les performances de Kevin Magnussen forcent le respect. Romain le sait, et ils n'ont pas eu d'accrochage ou de friction directe en course tous les deux, à mon souvenir. Et voilà, même si aujourd'hui, bon, il s'est fait un peu gêner en qualification hier, je pense pas que le...
Enfin, il le dit quand même. Hein.
Oui, il le dit. Il le dit. Parce qu'il faut trouver quand même une excuse, parce qu'il est derrière lui. Et voilà.
Donc quelque part, oui, c'est une explication. Fais moins bien que lui, mais il m'a gêné.
Mais en fait, la pression monte au fur et à mesure des courses pour Romain, puisqu'il n'a pas ouvert son compteur. Et quand on ne marque pas de points alors que son coéquipier est régulièrement dans les points, il y a un moment donné où il faut qu'il y ait un déclic et que ça commence à sourire.
Bien sûr. On croise les doigts pour lui, on espère qu'il restera dans les points puisque on le sait, les 10 premiers d'un Grand Prix de Formule 1 marquent des points et le point du 10e, on va voir ce qui se passe dans les premiers virages. Louis, on en revient au 2e français. Alors là lui, vrai français, hein, là il y a aucun doute sur Pierre Gasly, il n'est pas franco-suisse, il n'est pas suisso-français, lui il est normand. Pierre Gasly qui réalise, moi je te lance comme ça, une très belle performance avec la machine dont il dispose, parce que même si le Honda a fait des performances, avec les grandes lignes droites de Barcelone, c'est pas l'endroit où la Toro Rosso est la plus à l'aise.
J'ai même envie d'aller plus loin et de te dire qu'il réalise un super début de saison, tout simplement, Pierre Gasly. C'est sa première saison complète comme pilote de Formule 1. Il y a eu évidemment le coup d'éclat de Bahreïn qui a surpris tout le monde et très sincèrement lui le premier, où il avait réussi à terminer quatrième après s'être qualifié sixième avec son moteur Honda pour la deuxième course de la saison. Et effectivement, même si sa voiture est toujours assez inconstante, lui arrive assez souvent, pour ne pas dire à chaque fois, à en tirer le meilleur. Et voilà, il réalise vraiment un début de saison solide, Pierre Gasly. Bon, d'autant plus que son équipier Brendan Hartley, lui, a de plus en plus de difficultés. Donc, dans le duel qui oppose les équipiers et qui est tellement important pour les équipes de milieu de grille, Pierre Gasly prend très très largement le dessus sur le Néo-Zélandais.
Absolument, Louis. Et tu as rappelé cette très belle, cette magnifique quatrième place de Bahreïn, qui l'a lui également surpris, mais il a été magnifiquement opportuniste, qui lui permet donc de se situer au 11e rang et derrière, juste derrière, Carlos Sainz. Hein, c'est pas rien. Alors, effectivement, on en a dit beaucoup de bien de Pierre Gasly, Adrien, dès l'an dernier déjà, dès son apparition, on va dire, en Formule 1. Oui, il confirme, je suis entièrement d'accord évidemment avec ce qu'évoquait Louis, il confirme avec un début de saison extrêmement constant et extrêmement performant, d'autant que Hartley, lui, a la pression.
Oui, il a vraiment la tête sur les épaules, Pierre, et puis il a cette faculté d'arriver à saisir les occasions, comme c'était le cas avec cette quatrième place, cette magnifique quatrième place. Et voilà, et encore une fois, hier, il fait le job avec une voiture qui n'est pas la meilleure du plateau, loin de là. Il arrive à devancer son coéquipier pack un peu, et il met la pression là de plus en plus sur Brendan Hartley. Ça va être pour le pilote néo-zélandais, ça va être un peu plus compliqué s'il n'arrive pas à relever son niveau de jeu, puisque Pierre, lui, arrive vraiment à extraire le maximum de cette monoplace.
Pour Pierre Gasly, c'est une saison extrêmement importante parce qu'une place peut-être se libérer chez Red Bull dans quelques mois. Daniel Ricciardo est en fin de contrat. S'il n'était pas prolongé par Red Bull, il y aurait un baquet de livres et ça se jouerait entre Carlos Sainz, qui pour l'instant est chez Renault, et Pierre Gasly. Pour l'instant, Pierre Gasly montre qu'il a les épaules pour aller chez Red Bull et il formerait avec Verstappen un tandem qui ferait sans doute des étincelles.
Absolument, tu as raison de le souligner, ça n'est pas acquis pour le moment. Effectivement, il peut se passer des choses tout à fait au niveau de Red Bull, puisque on le répète, le contrat de Daniel Ricciardo n'est pas signé. Allez, on reste avec les Français, puisque nous sommes dans le Frenchies Corner, pour vous parler maintenant d'Esteban Ocon. Je commence par toi, Adrien. Alors Esteban, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Les Force India, bon, Perez 15e, c'est bien, il est devant. Esteban est 13e. On les sent pas au niveau de là où elles se trouvaient l'an dernier, en tout cas.
Oui, oui, sur ce circuit de Barcelone qui était un peu plus complet que le circuit de Bakou, où là, la Force India était performante avec son très bon moteur Mercedes et puis sa faculté à ne pas traîner trop d'air et à être rapide dans la ligne droite sur un circuit qui était pauvre aussi en grip. Là, c'est un peu l'inverse à Barcelone, un circuit très complet, très abrasif. Et apparemment, voilà, les autres ont progressé et on a un peu plus de mal à extraire le maximum des pneumatiques également. Donc voilà, c'est un boulot bien fait pour Esteban, puisqu'il est encore une fois devant son coéquipier. On le répète, mais c'est Sergio Perez et c'est loin d'être un manchot. Voilà, il a fait le job en qualif. Maintenant, c'est la course. Il va devoir prendre un peu de risque quand même pour essayer d'aller dépasser sur un circuit où c'est pas facile. Et espérer aller prendre des points.
Et on rappelle, Louis, on replace toujours dans le contexte, j'aime bien faire ça, que Perez est monté sur le podium lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan. Oui. Lui aussi, il est très opportuniste, que dans les 16 points totalisés par l'équipe Force India pour arriver au 6e rang, il y en a donc 15 qui viennent de Perez. Et on va le dire clairement, Esteban avait fait une petite bêtise en insistant, hein, dès le départ, Louis, on est d'accord là-dessus, par rapport à Raikkonen, voilà. Hein, pour replacer
absolument
dans le contexte.
Et le podium de Sergio Perez à Bakou il y a 15 jours, je peux vous dire que Esteban Ocon a vraiment eu du mal à le digérer, hein. Il nous en a beaucoup parlé à son arrivée à Barcelone ce jeudi, et ça a été un moment compliqué pour lui de voir que Sergio Perez est monté sur le podium, parce que l'année dernière il n'y avait pas eu de podium pour Force India. Et évidemment Esteban Ocon court toujours derrière ce premier podium en F1, et quand on voit la performance de sa Force India à Bakou, il aurait peut-être pu être pour lui en effet ce podium. Par ailleurs, concernant sa voiture, vous entendiez tout à l'heure Fernando Alonso expliquer qu'à chaque fois que la McLaren apportait une amélioration, ça se vérifiait en piste. Et ben le problème pour Force India, c'est que ça n'est pas le cas. Force India a apporté beaucoup de nouveaux éléments ici à Barcelone. Il y a un nouveau plancher, il y a un nouveau système d'écoulement de l'air, il y a un nouvel aileron avant. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Les Force India sont toujours coincées en milieu de grille. Elles étaient la saison dernière la quatrième force du plateau. Et pour l'instant, elles ont du mal à retrouver ce niveau de performance.
Et malgré, Adrien, pour rebondir exactement sur ce qu'évoquait Louis, malgré le fait qu'elles disposent du meilleur moteur, c'est indubitable, hein. Le moteur Mercedes reste malgré tout globalement avec le Ferrari pas très loin. Ce qui explique d'ailleurs la performance des As, par parenthèse, hein, puisque toute la motorisation technique, c'est Ferrari, bien sûr. Tout l'aspect technique, la boîte de vitesse, etc. Mais j'en reviens à Force India, oui, ils n'ont pas retrouvé la formule magique qui leur a permis l'an dernier d'être indubitablement la quatrième force du plateau.
Oui, mais je pense aussi que ce sont les autres équipes qui ont réussi à trouver de la performance. Rappelons que c'est la deuxième année où on est sur le même règlement. Oui. Et forcément, bah, toutes ces équipes qui ont des moyens aussi, parce que Force India, c'est pas non plus l'équipe qui a le plus de moyens, c'est une équipe privée. Et forcément, celle qui s'était un peu loupée sur le premier jet, entre guillemets, l'année dernière sur une nouvelle réglementation, arrive à combler un peu l'écart, et ça s'est vraiment resserré au niveau du milieu du plateau. Donc forcément ça se joue sur des tout petits détails, et encore une fois c'est l'utilisation du pneumatique qui prévaut.
Allez, on va en arriver au quatrième francophone, si vous le voulez bien. En tout cas, il est dans le Club France. Ça, il a sa carte d'accès permanente. Il s'agit de Charles Leclerc, qui a signé le 14e temps. On va tout de suite l'écouter justement à propos de cette performance en qualification au micro de Louis Hamard.
On a vraiment vu une énorme amélioration depuis que j'ai changé un peu mon approche pour le réglage de la voiture. Et ça nous a, je pense, énormément aidé. Depuis, on a quand même une performance qui est beaucoup meilleure que sur les trois premiers meetings. Donc c'est vraiment top. Deux Q2, surtout sur une piste comme Barcelone, qui est très représentative pour le reste de la saison. Ça fait du bien et ça motive tout le monde, donc c'est top.
Ah, ce qui est impressionnant également chez lui, Louis, c'est la lucidité dont il fait preuve, hein. Charles Leclerc, il est vraiment, il est posé, il ne se prend pas la tête. Et en tout cas, je pense qu'il a pas du tout la grosse tête, malgré ses performances où il écrase totalement son équipier.
Il est tout timide, Charles Leclerc, quand on le voit se balader dans le paddock. Il est extrêmement courtois, extrêmement affable, et effectivement, il sort pas des clous. Et quand il est heureux, il le dit. Franchement, son émotion il y a 15 jours à Bakou, après sa 6e place, était très belle, vraiment. Il était sincèrement ému, et il s'est présenté devant nous en zone mixte juste après la course. Franchement, chamboulé par cette performance-là. Ouais. Toute son équipe l'aime beaucoup. Fred Vasseur le couve vraiment, le patron de Sauber. Et tout le monde ne dit que du bien de Charles Leclerc dans le paddock. Il sera dans 15 jours à Monaco chez lui pour sa vraie course à domicile.
Ah oui.
Lui qui est monégasque, qui ne peut pas faire un pas dans la ville sans se faire saluer par tout le monde. C'est là qu'il a tous ses amis, toute sa famille qui vit. Et ça sera évidemment un moment extrêmement particulier pour lui. Enfin, c'est très important à souligner aussi, c'est sa première saison en Formule 1 et il bat son équipier. Sur les deux dernières courses, il monte en Q2 et pas Marcus Ericsson qui a franchement, lui, du mal à tenir cette comparaison parce que Marcus Ericsson n'est pas du tout un débutant.
C'est de Jules Bianchi que tu parles, Louis, ou c'est de Charles Leclerc? Parce que honnêtement,
c'est
le même discours.
C'est la même chose et il a eu un très bel exemple à suivre et en dehors de la voiture, il est pareil, il est bien élevé et timide comme tu le dis, enfin c'est vraiment un peu la
bien élevé, respectueux des autres,
la même
tout
approche
simplement.
Exactement, voilà. c'est un mec normal et qui est très très performant. En plus de ça, un Ericsson qui est battu à plat de couture et qui est quand même sous-évalué. Ericsson, c'est quand même un bon pilote.
Ah, oui,
et c'est pas facile d'aller le battre comme ça. Il commence à avoir de l'expérience en Formule 1 et d'arriver pour Charles et de le battre alors que c'est entre guillemets normal pour Charles d'aller battre Ericsson alors que non, c'est loin d'être facile.
Ben Ericsson, il a dépassé les 80 départs en Grand Prix, hein, c'est ce que je vais vérifier à l'instant quand même.
Et oui.
Son premier départ c'était à Melbourne en 2014. Oui, c'est pas le premier venu non plus effectivement. Voilà, on a bouclé cette French Corner, Frenchies Corner. On a à peu près bouclé pas tout ce qu'on voulait vous dire en F1, on va y revenir tout à l'heure. Louis, tu restes avec nous bien volontiers, on va plutôt passer dans Radio Paddock dans un instant dans la troisième ligne droite de cette émission Motors. On va parler de moto, je sais que ça t'intéresse, et puis d'une victoire de Fernando Alonso. Et oui, ça arrive. Vous êtes dans Motors sur RMC, vous restez avec nous bien sûr.
RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Allez, on a beaucoup parlé de Formule 1 évidemment dans ce moteur spécial qui maintenant à moins d'une heure et demie du départ du 5e Grand Prix de la saison. Ce sera sur le tracé de Montmelo à côté de Barcelone et on vous a longuement disséqué la grille de départ de ce Grand Prix avec Louis bien sûr et avec Adrien. On reparlera un petit peu avec Louis tout à l'heure. Pour le moment, on va parler moto avec évidemment un personnage plus qu'incontournable. On a d'ailleurs pas du tout envie de le contourner. Il s'agit de Claude Michi, l'organisateur de ce magnifique Grand Prix de France moto qui se déroulera au Mans la semaine prochaine. Bonjour Claude.
Bonjour messieurs, bonjour Jean-Luc.
Salut Claude.
Est-ce que le petit footing du matin était correct?
Pas mal, bon. Avec un héron cendré au bord du lac qui était là pour me saluer, c'était magnifique.
Bah, tu le connais bien ce héron cendré là. Claude, avec toi, c'est toujours un plaisir d'évoquer franchement ce Grand Prix de France où nous serons ensemble. Et d'ailleurs, je compte sur toi dans Motors, hein, comme chaque année. Je sais que tu fais ton petit passage rapide parce que tu es très occupé. Allez, on le présente à nouveau ce Grand Prix. Alors on y va clairement tout de suite. Les tribunes, c'est plein, mais le reste, on peut venir et on doit venir pour ce Grand Prix de France, Claude.
Avec la performance de Johann Zarco, qui est deuxième au championnat du monde et qui nous montre des choses exceptionnelles, je pense que si les gens ont envie de vibrer, de passionner, seront là, le reste du monde aussi, mais je pense que le souhait de tout le monde, c'est que Johann Zarco nous fasse pleurer, quoi, de joie.
Je pense qu'il pourrait y arriver. Alors, on va rappeler que Johann, effectivement, vient de terminer deuxième du dernier Grand Prix moto à Jerez de la Frontera, derrière Marc Marquez. Alors, bien sûr, il a été opportuniste, mais ça fait partie du sport moto. Il totalise 58 points. Marquez en a 70 et il devance Vignales avec la Yamaha officielle, faut-il le rappeler, 50 points. Iannone avec la Suzuki officielle, évidemment, après ses deux podiums, 47 points. Et puis Dovizioso, qui avait été leader du championnat du monde avec la Ducati, 46. Et Rossi, même, 40 points. Alors, tout de suite, tu m'as devancé. J'allais te poser des questions, évidemment, sur Johann Zarco. Il est comment avant son Grand Prix national? Claude, tu le connais bien, tu l'aides, tu le protèges, on peut dire quelque part. Est-ce que il va résister considérablement bien, comme il l'a fait l'an dernier, à cette pression du Grand Prix de France pour un pilote français?
Ouais, soyons raisonnables. Moi, je se guide pas. Il se guide tout seul avec Laurent Felon.
Avec Laurent Felon.
Non, je pense que on a un athlète, hein, puisqu'on parle de sportif de haut niveau, qui est totalement épanoui, qui sait ce qu'il a à faire, qui est dans une équipe, l'équipe Tech 3 d'Hervé Poncheral, dans lequel il se trouve très bien. C'est une famille qui lui convient. Et ensuite, techniquement, dans sa notion de pilotage, maintenant, tout le le monde prend garde à lui. Je veux dire, tous les pilotes savent dans les tops, il y a Johann Zarco. Donc, si vous voulez, ça modifie aussi la perception des autres vis-à-vis de lui, et peut-être une certaine crainte, parce que même s'il a eu un peu de chance avec les incidents de course à Jerez, il était juste derrière à 10 secondes, il restait 7-8 tours, et d'après ce que j'ai pu comprendre, il pensait que ses pneus allaient lui permettre peut-être de recoller.
Absolument.
Donc, voilà. Donc l'an dernier, il fait deuxième ici.
Oui.
Hein, donc c'était quand même magnifique. Les Yamaha sont en général pas mal sur le Bugatti. À partir de ce moment-là, la pression, je veux dire, pour un garçon comme ça, c'est de la pression positive. Et c'est quelqu'un qui vit normalement, tranquillement, et qui sait séparer, je pense, le moment de la compétition et l'autre partie de sa vie où il s'entraîne, mais où il vit normalement et où, je pense, il libère aussi son cerveau pour être à l'optimum le jour où il faut être là.
Ah oui. Puis c'est un type, tu le disais, remarquablement équilibré et évidemment, je disais protégé. Enfin, je sais que tu l'aides et c'est normal, au moins psychologiquement déjà. Et c'est Laurent Felon, évidemment, son manager. Alors, on a pu tous être surpris. Je vais quand même te demander ton avis par ce choix d'aller chez KTM. On sait qu'il était courtisé quasiment par tout le monde, hein, même par Honda, peut-être pour aller aux côtés de Marquez à la place de Pedrosa. Probablement, là c'est moi qui l'affirme, mais je pense par Ducati, puisque on le sait pour le moment, eh bien Lorenzo, ça n'est pas du tout signé. Certainement par Suzuki, ça il l'a dit, mais il voulait pas retourner avec eux, il avait essayé pour Suzuki. Alors, ce choix KTM, tu le comprends? J'ose presque dire, tu l'approuves pour le futur ou après tout, c'est son affaire?
Non, d'abord c'est son affaire, mais si on prend la carrière de Johann, il a toujours gardé une ligne. C'est pas un pilote entre guillemets formaté, programmé, etc. Il a fait sa ligne. Ils ont toujours fait des choix, notamment avec Laurent Felon, qui était presque étonnant quand il était champion du monde la première année en Moto 2. Il dit je vais être champion du monde une deuxième fois et pas aller en Moto GP tout de suite. C'est quand même des choix forts et qui sont des choix aussi, je dirais, difficiles. Après le choix de KTM. Aujourd'hui, pour être premier pilote d'usine, il n'y avait pas d'autre choix déjà à mon avis. Et KTM, c'est Red Bull. Et partout où est passé KTM, KTM a gagné.
C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est un constructeur très puissant, hein, on le sait. Hein.
Et il suffit de voir ce qui s'est passé à Jerez, où les KTM finissent juste derrière le Yamaha Factory en course, juste derrière. Et le lendemain, en essai privé, la nouvelle KTM. Qui est testé par Mika Kallio, a roulé plus vite que les KTM pendant le Grand Prix. Donc, et les pilotes qui, sans leur faire offense, qui sont aujourd'hui sur les KTM, sont peut-être d'un niveau légèrement inférieur à Johann Zarco. Et quand on voit que à Jerez, entre le premier et le dixième, il y a moins de 3/10 autour, aux essais, tout est possible. Non, je pense que c'est un beau challenge. C'est un très beau challenge.
C'est vrai. De toute façon, effectivement, c'est le leur. D'ailleurs, ils ont dû choisir en connaissance de cause et ils ont probablement, comme tu le soulignes, des informations que nous n'avons pas.
Exactement.
Et puis KTM a gagné, enfin, partout, comme tu le disais, au Dakar et ailleurs. Il n'y a pas de problème. Je vais juste rajouter une petite louche, si tu veux bien, pour faire monter la pression. Mmh. C'est que ça a été Johann Zarco le plus rapide des essais privés qui se sont déroulés sur le même circuit juste après le Grand Prix. Ça veut dire qu'il est remonté comme une pendule, Claude, c'est ça?
Je pense que mentalement il est très fort et psychologiquement il est en train de mettre le bourdon à certains.
C'est évident. Clair.
Ça fait partie de la course aussi. Hein. Il faut être conscient que tout être humain, même si c'est un athlète de très haut niveau, peut être fragilisé par un certain nombre d'éléments de ce qui se passe sur la piste, un peu en dehors de la piste, etc. Donc, à aujourd'hui, tous les feux sont ouverts. On sait que la course, c'est toujours délicat. Hein. Le haut niveau est tellement difficile et les pilotes sont tellement proches les uns des autres que le moindre petite chose fait que on peut ne pas être là où on souhaiterait être. Mais moi, j'ai toute confiance. Et je dirais que c'est le 25e Grand Prix qu'on organise. Et je pense qu'en cadeau, ça serait parfait s'il pouvait monter sur le marché de la boîte.
Ça, t'as raison, ce serait génial. Merci beaucoup, Claude Michi. On sera ensemble pour tout le week-end. Évidemment, on aura beaucoup d'interventions sur l'antenne de RMC, RMC partenaire du Grand Prix de France Moto. Ça va être un plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup, Claude. Merci. Et bon dernier jour de préparation.
Oui, on est à fond,
Ouais, je m'en doute. Salut Claude. Voilà. On va passer maintenant dans Radio Paddock. On va parler encore un peu de moto avec Aurélien Tirsin dans un instant. Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et voilà, je vous la fais à chaque fois, mais ça c'était Lewis Hamilton pour son quatrième titre de champion du monde. Salut Aurélien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Alors, on vient de parler de moto, du Grand Prix. On va continuer, ça tombe
bien. Le Grand Prix de France avec notamment Johann Zarco, deuxième l'an dernier, on l'a dit tout à l'heure avec Claude Michi, organisateur du Grand Prix, et on espère le voir faire de grandes choses la semaine prochaine sur ce circuit Bugatti. Tu l'as dit, il a fait des très bons temps, le meilleur temps lors des essais privés. Voilà, face à lui, il y aura Marc Marquez, le leader du championnat du monde. Johann Zarco est deuxième à 12 points derrière. Faut aussi se méfier de Maverick Viñales, un autre espagnol vainqueur l'an dernier. Voilà, Johann Zarco qui est potentiellement quand même candidat à la victoire finale. Ça serait la première de sa carrière. Ça serait magnifique si c'était en France, évidemment.
Écoute, ce serait absolument génial, comme on vient de l'évoquer avec Claude. C'est vrai que ce serait un premier stade parce que je pense que des victoires en Grand Prix, il y en aura d'autres si le matériel le lui permet. Il est opportuniste comme jamais, la preuve, et Claude vient de l'évoquer, c'est vrai qu'il avait ménagé ses pneumatiques. Moi, j'ai suivi la course, comme toujours, avec une passion extrême, et on avait bien compris qu'à un moment, réservoir plein, il est toujours un peu comme ça, Johan. Ou alors, il sait qu'il peut rester devant, et tant que les autres ne l'attaquent pas, bah, il y reste, hein. Il a mené un certain nombre de Grands Prix de cette manière-là. Et puis sinon, il ménage ses pneumatiques en se disant que on abordait les 8 derniers tours du Grand Prix, il était en train de revenir sur les trois qui ont terminé par terre. Alors là aussi, on va pas accuser l'un ou l'autre, mais enfin, il faut reconnaître que les deux Ducati au sol, plus Dani Pedrosa avec une manœuvre, moi je mets quand même Alonso, au moins puisqu'ils sont trois, moi je lui donne déjà plus de 50% des responsabilités.
Lorenzo,
c'est ce que j'ai dit. Alonso, on va en parler après. Lapsus révélateur.
Alors justement, est-ce que c'est la place de Johann Zarco, là, juste avant le Grand Prix de France, d'être deuxième du Grand Prix, deuxième du championnat du monde? Est-ce que finalement, il a profité de la chute, effectivement, de Dani Pedrosa, Dovizioso et Lorenzo? Donc, est-ce que c'est sa véritable place d'être deuxième du championnat du monde aujourd'hui?
Écoute, là, il a eu de la chance. C'est clair que normalement, et bon, il les aurait probablement rejoints, les deux Ducati et la Honda de Pedrosa, mais avant de les dépasser, c'était encore une autre affaire. Non, il a été opportuniste, mais encore une fois, il était en position de l'être, hein. Comme toujours, la chance, ça se provoque. Moi, je crois que dans une carrière, là aussi, c'est toujours comme ça.
En Argentine, déjà, il avait profité également de plusieurs
fait.
Chutes.
Et il est resté sur ses roues, pareil, parce que là, moi, j'ai craint qu'il aille au tas, hein, parce que la piste était extrêmement piégeuse, donc on sait qu'à moto, ça tient à très peu de choses. Bah non, il est resté sur ses roues, et il a décroché un autre podium, là aussi, une super performance derrière Crutchlow. Et puis, on rappelle que c'est Rossi qui s'était fait piéger dans l'avant-dernier virage, l'an dernier, au Grand Prix de France également. Non, bah écoute, ce serait une histoire formidable, là, je pense qu'on on va avoir du mal à la commenter, cette course, si jamais Zarco est en mesure de la gagner.
Est-ce que une petite dernière chose sur Johann Zarco, on le disait, c'était un type équilibré. Bon, moi j'ai pas la chance de le connaître personnellement, mais est-ce qu'il y a pas trop de pression autour de lui justement pour ce Grand Prix de France? On attend que lui là.
C'est clair, ben Claude l'a dit, bien sûr qu'il le sait, tout le monde l'attend, et il y a toutes les raisons. Deuxième au championnat, deuxième du dernier Grand Prix, meilleur, plus rapide aux essais, deuxième du Grand Prix il y a un an, etc. Ouais, tout le monde attend la victoire, lui aussi il a dit je vais le remporter, ce Grand Prix. Trop de pression, ben, je sais pas, tu sais, il y a des pilotes, il y a des champions qui transforment la pression de manière positive. J'espère et je pense que c'est le cas de Johann Zarco. Donc je réponds à ta question, une victoire de Zarco au Grand Prix de France, bah c'est plus que possible, c'est vrai.
On croise les doigts. On croise les doigts. On va passer à Fernando Alonso.
Oui.
Désormais en WEC, le championnat du monde d'endurance, il a remporté les 6 heures de Spa-Francorchamps la semaine passée. L'espagnol il est en trio avec Sébastien Buemi, le Suisse, et Nakajima, le Japonais, deux anciens pilotes de Formule 1 également. Et Fernando Alonso qui a donc gagné avec sa Toyota, qui est la seule écurie, la seule équipe d'usine dans ce championnat, et il a gagné devant une autre Toyota qui semblait un peu plus rapide, et ça pose question, cette victoire de Fernando Alonso. Ça fait beau, disons. C'est bien, une victoire Fernando Alonso.
Mais c'est clair que c'est la star qui a été recrutée effectivement par Toyota. On sait que Fernando, depuis l'an dernier, après sa participation aux 500 miles d'Indianapolis, il a annoncé le programme. Je souhaite remporter les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Et avant les 24 heures du Mans, il y a la course du WEC. Alors, je vais me retourner vers Louis, qui est toujours avec nous. Louis.
Toujours.
Amar, qui est là, fidèle au poste. Alors, Louis, j'imagine, est-ce qu'il est illuminé de l'intérieur, Fernando, par cette nouvelle victoire? Même si c'est pas de la Formule 1.
Ça, je ne pourrais pas te répondre. Il est illuminé de l'extérieur, en tout cas. Ça,
bon,
je
l'ai
vu.
Pas mal.
C'est déjà ça. Effectivement, il est arrivé tout sourire dans le paddock de Barcelone. Là, à l'instant, il y avait la parade des pilotes où tous les pilotes sont juchés sur un camion pour un tour de circuit et aller saluer le public. Évidemment, c'est Fernando Alonso qui a été le plus acclamé. Il est descendu du camion. Il est allé jeter des casquettes au public. Il les a fait chanter et danser comme il fait systématiquement sur ce Grand Prix d'Espagne. Et il est arrivé donc auréolé de ce succès. Il a été taquin parce que il faut toujours comprendre les mots de Fernando Alonso en comprenant son second degré. Donc quand il dit ah oh, qu'est-ce que c'était bien de remonter sur le podium, qu'est-ce que c'était bien de retrouver la joie de la victoire, en fait c'est une pique dissimulée à son écurie McLaren, parce que la fin de sa phrase c'est maintenant il faudrait que je retrouve ça en Formule 1.
Ah, bah,
c'est
oui.
Sûr que Fernando Alonso il a le pilotage dans le sang. Il y a des pilotes dont on se dit une fois qu'ils auront arrêté leur carrière en Formule 1, eh ben ils iront faire autre chose. Je suis pas sûr que Lewis Hamilton par exemple s'aligne dans d'autres catégories. Lui Fernando Alonso, tant qu'il pourra, il pilotera, et c'est comme à chaque fois le message qu'il a fait passer.
Adrien, il aime ça, Fernando, effectivement. Oui. Est-ce qu'une victoire, même ailleurs, dans d'autres circonstances, bah, ça peut l'aider dans sa carrière de pilote de F1?
Ça peut que faire du bien, et puis on l'a vu hier en qualif, hein. Il est toujours là, et ça a pas l'air de lui poser de problème de sauter d'une voiture à une autre. On pourrait se poser la question aussi, mais non, en l'occurrence, là, il reprend de la confiance, forcément, parce que même si c'est Fernando Alonso, et que tout le monde dit que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur pilote en Formule 1, ça fait quand même longtemps qu'il est plus monté sur un podium, et là forcément de gagner sa première course en WEC, c'est pour la confiance un gros boost.
Super. Merci beaucoup Adrien, merci Louis. On se retrouve tout à l'heure à 15h, autour de 15h, juste un peu après, pour le départ du Grand Prix. Merci Aurélien.
Mais
juste
merci.
Un mot, si tu veux bien, je vais signaler la victoire de Giuliano Alesi. Mais oui.
Et oui, le fils.
Le fils qui a gagné en GP3, effectivement, devant un Français, Antoine Hubert. Donc ça va plutôt bien en GP3, c'était également à Barcelone. Merci beaucoup.
Merci
Aurélien.
À vous.
On se retrouve tout à l'heure pour le Grand Prix de F1, le Grand Prix de Barcelone.